Sécurité Santé. Claire Hédon.
Bonjour à tous. Accident de la route, traumatisme, crise cardiaque. Quel est le rôle des services d'urgence? Nous en parlons à l'occasion du 9e congrès des urgences qui commence demain au Palais des Congrès à Paris. Alors comment mieux organiser justement les urgences, les rendre plus facilement accessibles? Quelles sont les difficultés? Nous allons faire le point en France et en Afrique et on va voir justement de façon assez concrète comment améliorer les urgences. On en parle avec le docteur Massamba Sassoun Diop qui est président de SOS Médecins à Dakar au Sénégal et médecin urgentiste au SAMU de l'Essonne en région parisienne. Également avec nous, ou plutôt qui va nous rejoindre, le docteur Gérald Kierzek, qui est urgentiste à l'hôpital de l'Hôtel Dieu. Et si vous avez envie de participer, surtout n'hésitez pas à nous appeler au 33 1 84 22 75 75. Et en fin d'émission, on parlera de la tuberculose et plus précisément des résistances au traitement. Docteur Massamba Sassoun Diop, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, parce que si j'ai bien compris, vous étiez de garde cette nuit, donc vous n'avez pas dû trop dormir. Quels sont les points qui vont être abordés dans ce congrès qui démarre demain?
Alors vous savez, justement, la particularité de cette médecine d'urgence, c'est qu'elle est complètement transversale. Et c'est comme ça qu'en fait, on se retrouve...
Quand vous dites ça, ça veut dire que ça touche toutes les pathologies.
Exactement. Ouais. Et on est obligé, en médecine d'urgence, d'être hyper compétent, avec en plus le fait qu'elle évolue, qu'elle change constamment, d'être hyper compétent aussi bien en cardiologie, par exemple, sur les infarctus, puisqu'on est les premiers à arriver dessus, sur les accidents vasculaires cérébraux, on est encore les premiers, l'arrêt cardiaque, bien évidemment, mais aussi les petites urgences comme ça va de l'angine, la rhino-pharyngite à la gastroentérite, la pédiatrie dans tous ces aspects d'urgence, ça va être aussi au niveau de la traumatologie, donc tous les accidents graves, la personne qui va faire une chute d'un étage, ça va être en endocrinologie aussi, ça va être finalement, on a par exemple des nouveaux systèmes dans la ventilation, c'est-à-dire on évite de faire de la respiration artificielle, il y a des toutes nouvelles techniques, on fait de l'échographie, il y a l'embolie pulmonaire, il y a l'insuffisance cardiaque, vous avez en fait un tas comme ça de
un groupe de pathologies. Ça veut dire que ça vous oblige à avoir une connaissance très générale.
Extrêmement générale, mais surtout très pointue. C'est-à-dire qu'en fait, nous, quand on voit quelqu'un, il faut faire le diagnostic en quelques minutes et donner le bon traitement. Donc en fait, ça nous oblige de connaître vraiment les choses sur les bouts des doigts et d'avoir une sanction thérapeutique adaptée immédiate. Et donc c'est pour ça qu'en fait on a cette mise à cet état de l'art en fait pour lequel on vient dans un congrès comme celui-là
parce que ça c'est une formation hein, faut le répéter.
C'est une formation d'échange et ça bouge beaucoup. Et là en plus la particularité de ce congrès qui représente il y a plus de 4000 personnes hein, on a même les ce qu'on appelle les ARM, les assistants de régulation, donc les personnes au standard. Vous avez les infirmiers, nous par exemple je fais venir des infirmiers de chez nous aussi, de Dakar, il y a un infirmier qui vient d'arriver ce matin, il y a aussi les ambulanciers et vous avez bien évidemment les médecins, et il y a en plus, il est extrêmement, ce congrès a la particularité d'être extrêmement interactif. Et vous vous retrouvez avec des ateliers très particuliers, de la simulation, vous vous retrouvez avec des sortes de jeux, de quiz, des choses comme ça. Et en fait, on a un énorme dynamisme depuis 2-3 ans sur ce congrès-là. Et avec, vous avez plus de je crois qu'il y a presque 35 salles en parallèle, en fait, au Palais des Congrès.
Donc 4000 participants, des représentants des pays du Sud, un petit
plus
peu.
Plus de 20 pays représentés.
D'accord.
Quasiment tous les pays francophones, à chaque fois, je croise nos collègues d'un petit peu partout, Afrique centrale et Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Nord bien évidemment, et viennent aussi, là il y a des Anglais, des Américains, parce qu'en fait il y a plusieurs sociétés savantes aussi qui se réunissent à cette occasion-là, et vous avez aussi bien évidemment les Canadiens, mais il y a aussi des Américains, et vous avez après par exemple des personnes d'Asie, mais qui viennent, qui sont moins nombreux bien évidemment.
On va revenir hein, sur ce congrès, sur les avancées, sur les questions qui y sont abordées. Juste si on reprend la dernière garde que vous venez de faire, par exemple, quelles sont les situations auxquelles vous avez été confrontés?
Alors, j'ai eu d'une part un infarctus à sa phase initiale, où là, on peut en fait en profiter pour en parler, c'est que ce qu'il faut, c'est bien évidemment que le patient appelle, la première des choses, hein, que ce soit en Afrique ou en Europe, partout dans le monde, il appelle lorsqu'il a une douleur thoracique. D'accord. Ensuite, à partir de ce moment-là, on déclenche un vecteur avec quelqu'un qui va. À ce moment-là, il faut un électrocardiogramme qualifiant.
Donc là, le SAMU ou l'équivalent est arrivé sur place chez lui.
C'est l'urgence. Voilà, là, je suis arrivé sur place.
C'est vous qui êtes arrivé sur place. Donc, qu'est-ce que vous avez fait?
Je fais l'électro, plus la prise des constantes, en fait, l'ensemble de ce qu'il faut, puis l'examen clinique. Et à ce moment-là, on confirme que c'est bien un infarctus. La décision, elle est là. la décision de ce qu'on appelle la réouverture de l'artère, c'est immédiat. Et à ce moment-là, soit j'ai deux solutions, soit je vais réouvrir avec un produit qu'on appelle la thrombolyse, et c'est ce fait à domicile, et c'est décidé par l'urgentiste, d'où l'importance de sa compétence en ce domaine.
Et ça c'est quoi? C'est une piqûre?
Oui, c'est une sorte de super desktop qui débouche toutes les artères.
Ça c'est
mais
bien,
faut pas
on,
se tromper.
On comprend bien de quoi il s'agit. On a tous eu des éviers bouchés, donc on voit de quoi il s'agit.
C'est vraiment le principe.
Ça. Mais d'accord.
Et il faut pas se tromper non plus, puisqu'il y a des effets secondaires.
On peut déboucher trop fort.
On passe de 30% de mortalité à moins d'1%. Donc
d'accord.
Ouais, c'est, y a,
donc
y a...
la première solution, c'est ça. La deuxième.
La deuxième, c'est que pour une raison ou une autre, il y a une complication, il y a une contre-indication, et là, dans ce cas-là, on va utiliser un certain nombre de médicaments, sauf celui-là, qui est le plus puissant, mais tous les autres, et on va amener sur table de coronarographie, où le coronarographiste, donc le cardiologue interventionnel, va réouvrir l'artère. À ce moment-là, avec, vous savez, les ballons.
Donc ça, ça se fait, il faut qu'on arrive à l'hôpital.
Et ça, dans ce cas-là, c'est à l'hôpital. Et donc, il faut prendre cette décision.
Et alors là, dans le cas de cette nuit, c'était, qu'est-ce que vous avez fait?
J'ai fait la thrombolyse. Et en plus, je l'ai amené ensuite en coro, mais il était déjà réouvert. Et le coronarographiste a entretenu, si j'ose dire, la réouverture en posant un stent. Donc en fait, ça a été la combinaison
des deux. Le stent qui va empêcher que ça se referme.
Que
en
ça
fait,
se referme, exactement. Et ce qui est intéressant...
Donc vous lui avez sauvé la vie, là.
En tout cas, il est effectivement vivant.
Bah, c'est, oui, c'est ça. C'est votre métier, c'est de sauver des vies.
Et à côté, on a eu un traumatisé grave, un accident de scooter.
Alors,
aussi.
On va revenir. On continue sur cet infarctus.
Ouais.
Ce que vous venez de nous décrire, donc là, c'est en banlieue parisienne, dans l'Essonne. Est-ce que vous arrivez à faire la même chose à Dakar?
Alors, très intéressant, parce que aujourd'hui, on l'a au Sénégal. Aujourd'hui, aussi bien les produits thrombolytiques. Alors c'est vrai que c'est pas toujours évident. Il y a des produits qui valent, et c'est l'une des seules pathologies où on est obligé de poser un peu la question. Il y a des produits qui valent, disons à peu près, ça fait en euros, ça doit être 100 et quelques euros, 120 euros, en CFA c'est à peu près 70 000, mais le meilleur des produits vaut plus de 1 million CFA, plus de 1500 euros.
Plus de 1500 euros,
oui.
D'accord.
Donc c'est le seul
qui
c'est
assez compliqué. Donc là, la question de l'accessibilité, elle est financière. On est vraiment dans une question d'accessibilité financière.
Alors, celui par exemple, nous de toute façon, quoi qu'il arrive, on va déboucher. Oui. Nous, on le fait. Mais c'est évident, au niveau des soins, hein, mais c'est évident que c'est assez complexe. Mais c'est la seule pathologie où il y a une telle différence. Enfin, l'accident vasculaire cérébral, on en parlera un petit peu. Il y a aussi une particularité. Mais sinon, aujourd'hui au Sénégal, on a l'accès à ces produits-là. D'accord? Et il y a aussi la coronarographie maintenant.
Et la pose de stent.
Et la pose de stent. Et c'est là où c'est important, c'est la filière. C'est qu'en fait, il faut travailler sur ça. C'est-à-dire qu'en fait, on travaille avec les cardiologues pour qu'ensuite il y ait une solution derrière. Et il faut savoir qu'aussi bien, et c'est dans le public aujourd'hui,
dans le public, on peut poser des stents aujourd'hui à Dakar.
Il y a deux endroits, à l'hôpital Le Dantec, avec le professeur Ba, et à l'hôpital Fan, avec le professeur Baradiop, comme les deux chefs de service, où vous pouvez poser des stents. Et il y a une clinique privée aussi, qui le fait, la clinique du Golfe. Donc vous voyez qu'en fait, il y a la possibilité de l'ensemble de la gamme des services. Le vrai problème, c'est la permanence de soins. C'est-à-dire que nous, là où on est confronté aujourd'hui au Sénégal, à quel problème, c'est que on est à domicile et il faut qu'on soit dans l'heure sur la table de coro. Si on n'est pas dans l'heure, il faut qu'on débouche tout de suite. Donc il faut qu'on ait vraiment cette filière avec cet accès direct.
Et justement, du coup, il y a combien de médecins capables de poser des stents à Dakar?
Je crois qu'aujourd'hui, il y a 5 interventionnels, 5 ou 6.
Donc il n'y a pas une permanence 24 heures sur 24?
Alors on est en train d'essayer de travailler avec eux sur
Et ça veut dire qu'il faut que plusieurs hôpitaux publics et privés travaillent ensemble pour établir cette chaîne.
Exactement. En fait, il faut faire une sorte de permanence tournante, arriver à cela, ou alors qu'un service s'engage à le faire et au même endroit. Mais en tout cas, on en a vraiment besoin. Mais vous savez que même à Abidjan, maintenant, il y a la coronarographie, il existe le SAMU d'Abidjan. Donc en fait, ce type de service est en train de se développer. Vous l'avez aujourd'hui en Tunisie. Vous l'avez aujourd'hui au Maroc. Donc en fait, on ne l'a pas évidemment dans l'ensemble de tous nos pays, mais c'est en train de se développer. Et on voit qu'il y a finalement cette spécificité de la médecine d'urgence est en train de se développer un petit peu dans tous nos pays.
Si je vous comprends bien, donc ce que vous avez fait là aujourd'hui pour un patient en France atteint d'infarctus, en fait on peut faire la même chose à Dakar, mais on a bien compris que c'était que dans la capitale. Le gros problème, c'est l'accessibilité financière, c'est le coût pour le patient.
Alors, nous, on a une étude, on a fait notre étude sur nos infarctus. Et on a effectivement un nombre important d'infarctus que nous avons thrombolisés. Et sachez qu'en fait, tous les ans, nous thrombolisons totalement gratuitement un certain nombre d'infarctus parce qu'en fait, on ne fait pas la sélection en amont.
Donc, vous commencez pas par demander au patient s'il peut payer.
Voilà. Donc en fait, on l'a fait. Mais c'est évident que ça ne peut pas se généraliser non seulement à un pays et en plus à l'ensemble des pays parce que ça a un coût et il y a toujours un payeur. Alors il se trouve que chez nous, c'est l'ensemble des médecins qui se cotisent dans ce cas-là pour payer pour sauver le patient.
Et on va voir justement tout ce que vous faites aux urgences.
Priorité santé sur RFI.
Et aujourd'hui, nous parlons des urgences à l'occasion du 9e congrès des urgences qui commence demain au Palais des Congrès à Paris. On en parle avec le docteur Massamba Sassoun Diop et le docteur Kerzek qui est en train de nous rejoindre. Et on a Aminata qui nous appelle de Guinée. Aminata, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, Aminata. Qu'est-ce qui vous est arrivé aux urgences?
Le service d'urgence est un mauvais sujet pour le regard bien que ce soit du corps médical.
Alors, la ligne téléphonique est vraiment pas bonne du tout. On a des gros soucis toute cette semaine de ligne téléphonique. On va vous rappeler pour essayer d'établir une meilleure ligne téléphonique. On n'a pas le deuxième auditeur. Donc, écoutez, on va voir après. Ça tombe bien. Gérard Kerzek vient d'arriver, de rentrer en studio. Bonjour. Vous êtes urgentiste à l'hôpital de l'Hôtel Dieu à Paris. Justement, on va commencer par ça. Comment vont les urgences à l'hôpital de l'Hôtel Dieu?
Les urgences de l'Hôtel Dieu, les urgences de l'Hôtel Dieu survivent. C'est-à-dire qu'on s'est battu depuis quelques mois pour maintenir ces urgences, pour maintenir un maillage de proximité. Parce qu'on voit bien que la politique actuelle, c'est de détricoter un peu le territoire, de faire des gros centres d'urgence, des espèces d'usines à malades, un peu comme on a eu pour les maternités, des usines à bébés. Et on voit bien, et notamment quand on discute avec les gens ou même vos auditeurs, qui se plaignent souvent de l'inhumanité des urgences. Et les urgences, il faut combiner à la fois le côté technique, donc il faut effectivement un plateau technique, un scanner, des prises de sang, donc il faut effectivement avoir une taille critique, mais il faut aussi de l'humanité. Pour avoir de l'humanité, il faut du temps pour se prendre en charge les gens, et ça veut dire qu'il faut avoir des structures d'urgence à taille humaine. Donc je pense que des grosses structures d'urgence, au-delà de 200 patients par jour, c'est très compliqué pour les équipes et c'est très inhumain pour les patients. Donc les urgences de l'Hôtel Dieu qui faisaient une centaine de patients par jour, c'était une bonne taille finalement. Pour l'instant, on survit, on ne sait pas ce que deviendra l'assistance publique, ce qu'elle fera de ces urgences, mais pour l'instant, voilà, on est encore ouvert.
Mais vous ne pensez pas que ce serait... On sait bien qu'il y a quand même beaucoup de services d'urgence à Paris, il n'y en a pas très loin de l'Hôtel Dieu, ça vous paraît raisonnable d'en maintenir autant dans Paris?
Alors, il y a beaucoup
on sait bien qu'il y a quand même un problème d'économie.
Il y a un problème d'économie, bien sûr, sauf que avoir des services d'urgence qui sont surchargés avec 250-300 malades par jour, avec des gens qui sont parfois renvoyés à la maison et dans des conditions de sécurité qui sont parfois discutables, donc avec un retour en urgence et avec une aggravation, et ça a été montré par toutes les études, c'est pas un facteur d'économie. C'est-à-dire que non seulement c'est pas un facteur d'économie humain, parce que on risque l'accident
pour les équipes et pour les patients. Vous pensez que vous le faites moins à l'Hôtel Dieu que dans les autres?
Non, on le fait pas moins à l'Hôtel Dieu ou pas plus ailleurs. Ce que je veux dire, c'est que plus on a une taille de service qui est importante, plus c'est difficile pour les équipes de prendre en charge les patients. Vous savez, l'urgence, c'est quoi? C'est trouver une aiguille, le patient grave, dans une botte de foin. Plus la botte de foin est grosse, plus cette aiguille, ce patient grave parmi la masse de patients qui vient, va être compliqué à trouver. Et c'est ça la difficulté d'un service d'urgence. Donc il y a des tailles en dessous desquelles il faut pas descendre, parce que pour des raisons d'économie, on va pas maintenir des petits services à 30, 40 malades par jour. En revanche, à plus de 200-250 malades par jour, ça paraît complètement déraisonnable de faire ces grands plateaux et ces grandes usines. Il faut des urgences de proximité, ça c'est valable à Paris comme c'est valable en province aussi. Vous savez, en Bourgogne par exemple, dans la région française, vous avez un seul hôpital, l'hôpital d'Auxerre, et tous les petits hôpitaux autour qui sont en train d'être fermés les uns après les autres. Conclusion, épidémie de grippe cet hiver, l'hôpital d'Auxerre était un des premiers hôpitaux à être complètement saturé parce que tous les gens convergeaient vers cet hôpital. Donc il faut les deux,
on
il faut maintenir de la proximité.
À Paris, on a encore plein d'hôpitaux et
oui, mais on a des hôpitaux, allez voir à la Rivoisière.
On est gâté.
Allez voir à la Rivoisière, allez voir à Cochin, avec 250, 300, 350 malades par jour, des équipes qui sont épuisées. On parle beaucoup en France des 35 heures, c'est la réforme des 35 heures. Les équipes sont épuisées, les 35 heures, c'est un peu la soupape de sécurité en disant, ben au moins je vais avoir mes quelques jours de congé pour pouvoir souffler un peu. Et il y a un turnover d'infirmiers, de médecins, on n'arrive plus à garder les gens à l'hôpital parce qu'ils partent, parce qu'ils sont épuisés et c'est au détriment du patient à la clé.
Docteur Massamba-Diop, vous qui travaillez à l'hôpital de Longjumeau dans l'Essonne, vous savez combien de personnes par jour aux urgences?
Alors, il y a plus de 100 personnes par jour, c'est même 120. Et là où, en fait...
Vous n'êtes pas forcément d'accord avec ça.
Non, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui est complexe, c'est que c'est évident qu'on est en train d'évoluer vers des grands centres. Parce que sur le plan économique, ça devient nécessaire. Et sur le plan aussi de la qualité des soins, quelqu'un qui arrive, s'il n'y a pas derrière justement une table de courroux, s'il n'y a pas derrière un radiologue interventionnel qui peut faire les gestes complexes, par exemple sur un bassin qui saigne dans un accidenté ou une femme enceinte, on va avoir ce problème. Ou par exemple les urgences neurovasculaires sur les AVC. Mais en même temps, ça veut dire que derrière, il faut mettre tout. C'est-à-dire que on va pas se retrouver avec 3 ou 4 urgentistes qui vont gérer 200-300 patients qui vont passer donc au passage. Il va falloir dans ce cas-là en mettre 10-12 et tout ce qui va avec, et les infirmiers et les aides-soignants. Donc en fait, ça veut dire une politique globale. Donc soit on maintient les urgences comme ça, avec des débits qui sont un peu moins importants, et dans ce cas-là, on fait une répartition sur l'ensemble au niveau territorial, soit on met vraiment le paquet, c'est des sortes de grands centres d'urgence, hein, on est aux États-Unis, il y a les traumato-centers, mais c'est l'ensemble, c'est pas que la traumatologie, c'est l'ensemble, et là, ça devient logique. Donc c'est ça le qui est un peu plus complexe.
Je voudrais vous lire le message d'Aminata, parce qu'on n'arrive pas à la joindre, la ligne est très mauvaise, elle nous appelle de Guinée. Elle dit, je me demande si la cupidité des médecins est l'effet de la pauvreté ou le manque de déontologie, mais en étant à l'agonie sans argent, pas de soins. Je suis en stage infirmier et ce que je vois me dégoûte. Les médecins mettent l'argent avant les soins. Pas d'argent, pas de soins. J'ai moi-même été victime de cela quand j'ai eu un accident en 2012. Le docteur m'a demandé de l'argent avant de me soigner. Docteur Massamba-Diop, c'est quand même un problème récurrent. Là, je lis le témoignage d'Aminata. On en a plusieurs du même ordre sur l'accès aux soins en Afrique.
Alors, c'est complexe. Ce qui est sûr, c'est que nous, on est privés, on ne le fait pas. Cette sélection,
donc,
c'est clair.
Donc
il y a moyen de pas faire. Et bien sûr, ça a un coût, il y a un coût très important. Il suffit de voir mon collègue, le professeur Bey du SAMU National à Dakar. Il y a plein d'intervenants aujourd'hui au Sénégal. Il nous disait l'autre fois que l'intervention, c'est une structure publique, l'intervention à Dakar du SAMU public vaut 186 000 CFA avant même de payer les salaires du personnel. C'est-à-dire, c'est juste le véhicule avec tout son matériel. Parce qu'attention, souvent, on parle d'ambulance médicalisée. Ambulance médicalisée,
donc ça fait combien en euros, excusez-moi, mon cerveau n'a jamais réussi à faire des calculs.
Quasiment 300 euros. Avant même de payer son personnel. Ça veut dire que ça, un coût, et un coût qui est extrêmement important. Ça, c'est déjà une réalité. Ça, c'est pour le préhospitalier. Aux urgences, c'est pareil. Il y a un coût réel. Maintenant, quand, en plus, on est sur des urgences publiques, il est évident que l'État a son rôle à jouer. Et l'État doit financer, il a un budget pour ça, et qui est souvent, n'est finalement pas alloué réellement jusqu'au bout, ou en partie va dans d'autres destinations. Et c'est sûr que la population doit, alors là, de façon claire et nette, aussi un petit peu se révolter en n'acceptant pas. Et là, les dirigeants vont être obligés aussi de faire les choses. Mais de là à généraliser, moi je vois bien un petit peu l'ensemble des services au niveau public au Sénégal, et je vois les médecins, et je vois, puisque j'enseigne à l'université aussi, et je vois comment sont les étudiants. Honnêtement, on peut pas dire que c'est...
Tous pourris, on peut pas dire ça.
Voilà, qu'il y a cette cupidité. Maintenant qu'il y en est, et qu'effectivement à ce moment-là, ça devient extrêmement choquant, on est complètement d'accord, et les sanctions. Et l'autre problème qu'on a probablement, c'est que les sanctions ne sont pas prises. C'est-à-dire que trop souvent, dans le système public, finalement, on dit, bon, hein, il faut pas, hein, attention, et on ferme les yeux. C'est là où il faut vraiment prendre les sanctions. Dès qu'on est au courant, un directeur d'hôpital, dès qu'il est au courant, il prend ses sanctions.
Et la solution, finalement, c'est ce qu'on a chez nous, un système de sécurité sociale, d'assurance maladie.
Alors, la solution, évidemment, c'est d'arriver à faire que chaque citoyen, du moment où, effectivement, s'il a rien de rien, mais cotise un petit peu, mais ne serait-ce que en CFA, c'est-à-dire 500 francs.
Ce qui est en train de se mettre en place au Sénégal.
Voilà, ce qui est en train de se mettre. Et là, ça change tout. Du moment où tout le monde cotise un peu, on arrive à répartir ensuite pour pouvoir donner un accès aux soins à tout le monde. Et ça, c'est majeur. Mais il faut rééduquer la population par rapport à ça, qu'elle comprenne et qu'elle ait
l'intérêt de cotiser.
Et voilà. Et quel est le résultat?
Et quel est le résultat? On se retrouve dans 3 minutes, si vous voulez bien, juste après les informations, toujours pour parler des urgences.
Priorité santé.
Claire Hédon.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Aujourd'hui, nous parlons de la prise en charge des urgences à l'occasion du congrès des urgences qui commence demain au Palais des Congrès à Paris. Pour en parler, deux médecins, le docteur Massamba Sassoun Diop, qui est président de SOS Médecins à Dakar au Sénégal, médecin urgentiste au SAMU de l'Essonne, et le docteur Gérald Kerzet, qui est urgentiste, lui, à l'hôpital de l'Hôtel Dieu à Paris. Vous pouvez bien sûr continuer à nous appeler si les lignes téléphoniques d'ailleurs veulent bien passer au 33 1 84 22 75 75. Juste avant les informations, on était en train de parler du coût des urgences. À la fois, effectivement, ça coûte cher, et puis ça coûte cher surtout pour le patient. C'est un obstacle à l'accès aux soins sur le continent africain, d'où l'importance de la mise en place d'un système de sécurité sociale, ce qui est le cas d'ailleurs au Sénégal. Et docteur Kerzek, vous aviez envie de réagir sur ces difficultés d'accès aux soins, ces inégalités.
Ah, il y a des inégalités en France aussi d'accès aux soins, pas sur les urgences, parce que les services d'urgence ont pour mission, c'est dans la loi, d'accueillir 24 heures sur 24 sans discrimination d'argent. Et en secteur 1, vous savez qu'il y a deux secteurs d'honoraires. Il y a le secteur 1 qui est remboursé par la Sécurité sociale, y compris pour les structures privées, et le secteur 2 à dépassement d'honoraires. Donc c'est pas tellement un problème sur les urgences. Par contre, là où ça devient un problème, c'est que si vous avez une fracture, par exemple, et que vous êtes aux urgences, vous allez être accueilli, on fait le diagnostic, mais il faut vous opérer. Et qu'il n'y a plus de place derrière parce que des lits d'hospitalisation ont été fermés, sont retenus, ou pour différentes raisons, les structures publiques ne peuvent pas vous accueillir. Et c'est très souvent le cas. J'étais de garde encore cette nuit, ça a été le cas. Eh bien, si vous n'avez pas d'assurance complémentaire, d'assurance santé complémentaire, c'est-à-dire que vous n'avez pas une couverture privée, eh bien, vous ne pourrez pas être réorienté vers une structure privée, vers une clinique privée, et donc du coup, vous avez plus de risques d'attendre, d'avoir un retard dans la prise en charge, et c'est là où ça commence à arriver une discrimination liée à l'argent, liée à la couverture d'assurance maladie complémentaire.
C'est pas une non-prise en charge, et sur les urgences, il y a vraies urgences, il y a prise en charge, mais c'est un retard pour un certain nombre de soins.
Oui, et l'urgence grave, l'urgence vitale, elle est prise en charge en France, il y a le SAMU, vous faites le 15, vous faites le 18,
on
débouchera votre artère sans aucun problème avec la table de coronarographie, quelle que soit votre carte verte, bleue, etc. Ça, il n'y a pas de problème pour l'urgence vitale. En revanche, pour l'urgence qui est un peu plus modérée, l'urgence pour laquelle vous avez besoin d'un rendez-vous, d'un examen, vous allez, si vous n'avez pas ni de réseau, ni d'argent, parce qu'il y a les deux, il faut le réseau d'information, c'est-à-dire les contacts médicaux et l'argent, vous allez atterrir aux urgences qui seront sûrement débordées parce qu'on a fermé des services, parce qu'il n'y a pas de lit d'hospitalisation, et si vous n'avez pas le bon coup de téléphone ou la bonne complémentaire santé, malheureusement, vous serez pris en charge probablement après quelqu'un qui, lui, va être réorienté dans des cliniques. Et je jette pas la pierre aux cliniques. Les cliniques ont des frais de structure. Vous savez, quand vous voyez des actes chirurgicaux sont remboursés par la Sécurité sociale à un acte de misère, à un prix de misère. Moi, je comprends les chirurgiens qui n'ont pas eu une revalorisation depuis des années, que ces chirurgiens fassent des dépassements d'honoraires. Donc, nous aussi, on a un problème de financement et de prise en charge par la collectivité de façon à ce qu'on ait une égalité d'accès aux soins qui est en train d'être rompue.
Et en fait, cette année, d'ailleurs, les 70 ans de la Sécurité sociale, on fera des émissions spéciales là-dessus. On a Joseph qui nous appelle de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Joseph, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, Joseph.
Oui, Pierre, je voulais intervenir parce que l'urgence, par définition, c'est une situation pathologique dans laquelle un diagnostic et un traitement doivent être réalisés très rapidement. Alors qu'en RDC, mon pays, ce n'est pas le cas, car c'est un service moins équipé, négligé, dont la prise en charge ne correspond pas avec la définition du terme, et dont le professionnel de la santé n'en tient même pas compte de ses spécialités.
C'est ça.
Je demande à l'OMS de mettre en place une stratégie pour améliorer la prise en charge des urgences, surtout dans le pays en voie de développement.
Ouais. Mais est-ce que
attendre tellement la réaction des dirigeants politiques, le dit pays ne deviendra qu'un désert dans peu de temps.
Alors, merci Joseph pour cette intervention effectivement très intéressante, mais est-ce que c'est à l'OMS de faire ce travail-là? Est-ce que c'est pas plutôt aux États? Mais Joseph, vous l'avez dit, en l'occurrence, la RDC ne fait pas ce travail-là pour améliorer les hôpitaux. Vous avez envie de réagir, Massamba Diop?
Oui, justement. Je pense que, attention, si je vais presque très loin.
Il y a un téléphone qui sonne. Lequel urgentiste a laissé son téléphone
moi,
branché?
Je les deux.
Oui, Massamba Diop.
Je pense que il faut faire attention et j'ose pas aller jusqu'à dire il faut arrêter les dons, c'est-à-dire les dons vers l'Afrique ou vers d'autres régions. Mais je pense qu'il faut faire attention parce que les dons font, ou si c'est, les politiques viennent de l'extérieur, elles entraînent finalement le non-investissement dans l'efficience, dans cette qualité qui va permettre au niveau du pays, trop souvent. Je pense qu'il faut d'abord faire un vrai projet médical, quel que soit le domaine, un vrai projet médical travaillé en local. À partir de ce moment-là, à budget égal, c'est-à-dire avec les budgets qui sont alloués, voir comment on arrive à être beaucoup plus efficace. Parce que je peux vous assurer qu'avec les budgets aujourd'hui qui sont déjà alloués dans les différents services, on pourrait avoir bien mieux. Et ensuite,
donc c'est
on fait et on prouve ce qu'on fait.
C'est une décision politique,
exactement.
Finalement.
Et ensuite, on rajoute à ce moment-là les budgets qu'il faut là où ça pêche, vraiment. Et là, on peut arriver à faire une vraie politique nationale. Alors que si on attend de l'OMS, si on attend des dons de l'extérieur qui viennent de façon erratique, on n'a pas de planification, on n'a pas de politique de santé à long terme qui tiendront. Et moi, je vois, je prends l'exemple là, vous prenez la Côte d'Ivoire. Cette politique, après le je crois d'ailleurs qu'un auditeur a envoyé un mail où on en a parlé, le scandale d'Awa Fadiga,
il y a eu une décision politique qui est décédée aux urgences parce que pas prise en charge, parce qu'elle n'avait pas d'argent
de changer.
Pour payer.
Voilà, ils ont eu une décision politique d'investir dans les urgences et on est en train d'avoir le résultat. Au Sénégal, c'est pareil avec notre ministre, le professeur Awa Marie Kolsek, elle a demandé entre autres au professeur Bey de mettre le paquet sur ces urgences sur les SAU et sur l'ensemble
SAU.
Du territoire, les services d'accueil d'urgence. Et du coup, avec une répartition territoriale. Parce que le problème aussi, c'est que c'est chaque citoyen qui a le droit à l'accès aux soins. Et on se doute bien, alors si on est au fin fond de la campagne, c'est pas
compliqué.
La même chose qu'au centre de Dakar. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est qu'on voit que les États, comme on a vu là en Côte d'Ivoire, au Sénégal, et je sais que même les autres essayent de le faire. Et c'est ça qui va changer. Mais je crois qu'il faut arrêter de toujours se tourner vers l'extérieur. Il faut le faire à partir de nos propres politiques.
Et c'est une décision politique, docteur Kiyazaki.
Et le maillage territorial est fondamental. C'est-à-dire qu'il faut imaginer un système de gradation d'urgence. On peut pas imaginer d'avoir des gros centres de partout avec la coronarographie, le trauma center. Bref, il faut des grands hôpitaux régionaux, mais il faut un maillage de proximité avec des points d'urgence, que ça soit en Afrique ou que ça soit en France. Et il faut à tout prix que ces points d'accès soient locaux, avec des gens bien formés pour un diagnostic rapide, et après un système de transfert entre les gros centres de référence, une fois que le diagnostic est fait, parce que quand on regarde les urgences, 90-95% des gens qui viennent aux urgences, ils ont besoin d'un bon diagnostic, et après c'est 5% d'urgence vitale qui, eux, seront évacués.
Donc on a aussi un problème en France d'organisation.
C'est exactement la même chose, sauf que le problème en France, nous, le maillage, il existait. On est en train de l'enlever. En Afrique, il faut le construire.
On a Amadou qui nous appelle du Mali. Amadou, bonjour.
Bonjour Claire.
On vous écoute Amadou.
Ici au Mali, je voulais parler au service d'accueil. Je programme au service d'accueil des gestants déchus d'Abra Touré. J'ai rencontré deux programmes. Dans le premier programme aux urgences, c'était l'attente. On peut attendre de 3 heures à 5 heures pour la prise en charge. Et le second problème, c'est l'ordonnance. On part à la pharmacie, les produits ne sont pas disponibles. Il faut aller chercher les produits en dehors de l'hôpital, dans les différentes pharmacies pour avoir tous les produits.
Merci à Amadou de nous soulever ces deux questions. La première, c'est intéressant qu'on y revienne un peu, c'est sur les délais de prise en charge. Il y a beaucoup de plaintes là-dessus. Je vous fais réagir tous les deux parce qu'il y a aussi des plaintes en France. Et il faut qu'on comprenne l'organisation des urgences, Massamba Diop.
Oui, la première chose, c'est est-ce que c'est une urgence réanimatoire? Et là, elle doit être prise immédiatement parce qu'il y a un risque vital. Et il y a l'urgence ressentie. Dans ma garde cette nuit, le nombre de patients qui sont venus, parce qu'il y avait une toute petite plaie sur le front d'un enfant, ils voulaient passer immédiatement, tout de suite, alors qu'à côté, on avait un œdème
du
poumon.
Ou un infarctus, vous étiez en train d'en parler tout à l'heure.
Voilà. Et du coup, mais là, c'était carrément aux urgences elles-mêmes, puisqu'en fait, c'est un double poste avec le SAMU et les urgences. Et du coup, ils voulaient passer tout de suite. Il n'y a aucune raison de le faire passer tout de suite. Et il faisait un scandale en disant « mon enfant doit passer tout ». Donc, en fait, il y a déjà ça qu'il faut comprendre. L'urgence ressentie par le patient n'est pas forcément une urgence que le médecin va intégrer comme une urgence immédiate. Donc, du moment où on fait attendre les urgences qui ne sont pas des urgences vitales et qu'on les traite de toute façon, dès qu'on peut, et qu'on traite d'abord les urgences vraies vitales, Mais il faut pouvoir les traiter à ce moment-là. Je pense que c'est le.
Il faut que ça se comprenne, Dr Kierzek.
D'où l'organisation avec le tri qui est fondamental dans les services d'urgence, qui s'appelle le tri IAO de l'infirmière d'accueil et d'orientation. C'est-à-dire très rapidement, il y a un enregistrement administratif. Cet enregistrement, on prend vos papiers, votre nom, votre prénom. Ensuite, vous voyez une infirmière ou un infirmier qui va prendre la tension artérielle, le pouls, qui va faire déjà un premier diagnostic infirmier, qui va vous trier par ordre de gravité. Et vous allez être pris en charge si c'est une douleur thoracique et qu'un risque d'infarctus tout de suite et de manière prioritaire, contrairement à d'autres commerces ou dans les commerces vous prenez un ticket en fonction de votre ordre d'arrivée dans les urgences en fonction de l'ordre de gravité. Sauf qu'il y a une étude qui vient de sortir aujourd'hui de la
alors
direction
justement vous êtes venu avec ce petit papier là
des statistiques oui. Voilà de l'adresse qui fait une étude sur les 736 points d'urgence structures d'urgence en France et qui montre qu'il y a malheureusement encore quasiment 70% des structures d'urgence en France qui n'ont pas ce tri IAO. Moi j'étais très étonné de ces chiffres là parce que c'est vrai que sur les grands hôpitaux c'est fondamental c'est d'avoir l'étape de ce tri pour après voir le médecin.
Oui, vous voulez. Je voulais dire
une chose qui est intéressante, c'est que même nous, au niveau de SOS Médecins, dans le système de visite à domicile.
À Dakar.
Voilà. Et éventuellement, puisque c'est la même structure qui va faire les urgences réanimatoires, on est confronté au même problème avec des patients qui effectivement, qui sont, il y a plus ou moins graves, mais par exemple, une fièvre à 38 chez un enfant qui a juste le nez qui coule peut attendre. Alors qu'en parallèle, on va avoir justement un infarctus ou un accident grave. Ouais. Et en fait, on se retrouve exactement avec à devoir
la
discuter
même plainte.
Parce que on peut avoir. On essaye bien sûr de réduire les délais, mais quelquefois, on a des délais longs et on a ce même problème.
Alors ça, c'était la première partie de la question d'Amadou. La deuxième est sur les médicaments et soulève quelque chose effectivement, c'est que il y a une ordonnance de médicaments. On fonctionne pas du tout comme ça en France. Il faut aller du coup se fournir. Alors normalement, à la pharmacie de l'hôpital. En l'occurrence, la plupart du temps, il n'y a pas les médicaments et donc on renvoie dans la pharmacie privée à l'extérieur de l'hôpital.
Et même plus grave, c'est-à-dire que vous avez un patient qui est en risque vital et vous écrivez, vous faites une ordonnance pour qu'ils aillent acheter à la pharmacie d'en face privée le médicament qui va sauver immédiatement le patient. Et là, c'est encore plus grave. Et c'est vrai qu'il y a ce problème de disponibilité et de rupture, justement, dans les approvisionnements. Et c'est pour ça que j'en revenais à cette politique, en fait, où déjà d'assurer ce genre de choses vont augmenter la qualité de façon déjà majeure.
On a Harold qui nous appelle de Pointe-Noire au Congo-Brazzaville. Harold, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, Harold.
Oui, dans mon pays, les urgences ne fonctionnent pas comme il le faut. D'abord parce qu'il n'y a pas déjà assez d'ambulances pour intervenir à domicile ou sur les lieux où se sont déroulés les événements. Les sapeurs-pompiers arrivent toujours en retard. Les sujets conduisent en urgence à l'hôpital pendant la mise en attente, surtout pour les cas du PG mal tourné. Parce que la consultation n'a pas encore été payée ou on vous dit simplement ce cas ne peut être traité qu'en Europe. Et là se pose le problème des visas. Ce qui pousse les gens à préférer les cliniques privées parce qu'ils sont vite possibles. Ce que je voudrais, c'est qu'il y ait en Afrique noire la possibilité de se soigner sur place ou d'opérer les sujets qui sont transférés en Europe ici même. Qu'on construise de grands hôpitaux dans des villages où, pour éviter les transferts vers la ville.
Qui sont aussi quelque chose de très compliqué, cette question des transferts. C'est intéressant ce que vous dites aussi sur les gens qui ne peuvent pas se faire soigner en Afrique et qui essaient d'avoir des visas pour se faire soigner en France. Sur la question des urgences, c'est qu'on n'a pas le temps. La plupart du temps.
C'est souvent ce que je dis à nos dirigeants. Je dis de toute façon, vous, même si vous avez un avion spécial, il faut déjà arriver à l'avion et tenir pendant le vol. On connaît un ou deux présidents qui n'y sont pas arrivés à la destination finale. Donc,
c'est le cas en cas d'infarctus, d'AVC, des choses comme ça.
Exactement. Donc c'est pour ça qu'il faut impérativement développer les structures locales pour l'ensemble de la population et à commencer par ceux qui croient qu'ils vont pouvoir partir. Eh ben, ils ne pourront pas. Et donc ça, je crois que c'est effectivement très important, mais on en revient toujours. Vous voyez, c'est toujours les questions, ça tourne toujours un petit peu autour,
même chose.
Autour des mêmes choses. Et je crois, vous voyez, là, on parlait du Congo, RDC et Congo-Brazza. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais c'est évident que ce sont des pays qui ont les moyens. Quand on sait la richesse qu'il y a dans le sous-sol, voilà.
Qui auraient le moyen d'investir dans leurs hôpitaux et dans leurs urgences. Non, mais je suis content que vous le disiez vous-même.
C'est une telle évidence que ça en devient choquant quand ça ne se fait pas, quoi.
Et c'est choquant, absolument.
On voit bien que la solution, de toute façon, c'est pas que ces patients viennent se faire soigner en France, parce qu'on voit aussi nos problèmes structurels. Donc, ça serait pas la solution. Juste un petit point sur les maladies infectieuses. On a eu le cas Ebola il y a quelques mois. mois où la solution c'était de rapatrier les gens. On va rapatrier notamment nos humanitaires, etc. C'est probablement une très mauvaise solution sur le plan épidémiologique et infectieux parce que c'est un risque de diffusion aussi d'infections. Donc il vaut mieux développer des structures locales performantes sur les différents continents et de pouvoir traiter avec le maximum de ressources sur place, y compris pour diminuer la contagiosité.
Docteur Massamba Diop, effectivement, à l'occasion de cette crise Ebola, la communauté internationale est en train de découvrir l'état des systèmes de santé sur le continent africain et se dire qu'elle a peut-être intérêt à ce que ces systèmes de santé fonctionnent un peu mieux.
Ah oui, c'est d'ailleurs ça veut dire que c'est un certain égoïsme qui, encore une fois, va faire que les gens vont développer. Vous voyez, c'est ça qui est un peu désespérant. C'est que finalement, si on se dit ça peut arriver chez nous, entre guillemets,
en se mettant soigner.
Donc il vaut mieux les soigner sur place. C'est toujours le même problème. Mais alors, autant sur... je crois que c'est intéressant, le cas Ebola, ben d'ailleurs...
Alors justement, vous allez nous dire un mot, SOS Médecins intervient en ce moment en Guinée.
Alors en fait,
racontez-nous dans quel cadre.
En fait, c'est un peu particulier. Les Nations Unies nous ont demandé, mais de médicaliser tout l'ensemble des gens qui interviennent là-bas, au niveau des Nations Unies, éventuellement
du
personnel,
Unies.
Pour tout ce qui, s'ils font une maladie quelconque, qu'ils fassent un infarctus, qu'ils fassent un accident de la route, là l'autre fois on a eu un accident très grave, un palu, voilà, parce qu'il y en a qui sont morts. Justement, il y a eu plus de morts de non-Ebola que d'Ebola dans les soignants, enfin dans l'ensemble des gens qui prennent en charge. Donc en fait, on nous a demandé de mettre une équipe de 7 personnes justement pour couvrir. En fait, même ça s'est élargi à la Sierra Leone. Voilà. Donc effectivement, nous travaillons pour.
C'était. Mais là, c'est effectivement pour le personnel des Nations Unies.
Tout à fait. Mais ce qui est important, je crois, sur Ebola, ça nous a montré aussi une autre chose, c'est que là, ceux qui ont eu peur, c'était pas ceux qui devaient avoir peur. C'est-à-dire que moi j'étais amené à faire même ici des cours pour savoir comment, qu'est-ce qu'il fallait faire en cas pour le personnel. Donc il y a eu des cours qui ont été, le SAMU devait former les gens des urgences et tout. Et on s'est retrouvé à avoir du personnel qui était paniqué. Je leur disais, mais vous savez, si vous avez un ou deux cas d'Ebola, peut-être dans l'ensemble des pays développés, qui viendraient, qui passeraient les frontières, ça m'étonnerait. Par contre, faites attention d'une mauvaise grippe. Et il y a une grippe avec 18 000 morts cette année, et en France. Et je pense que s'il y avait eu un cas d'Ebola, ça aurait fait 10 fois plus de scandales
que
ces 18 000 morts. Et c'est un peu complexe, mais c'est évident que par contre, pour les pays, c'était une catastrophe. Pour les pays en question, à savoir Liberia, Sierra Leone, Guinée, avec des systèmes justement qui ne marchaient pas, à la différence de ce qu'on a vu au Mali, au Nigeria et au Sénégal, où finalement ça s'est arrêté net, là effectivement c'était une catastrophe parce que ça a désorganisé l'ensemble des structures.
Pour revenir là sur la question des urgences, je voudrais vous lire le message de Céliba qui est à Ségou au Mali. Il dit: j'ai perdu mon papa dans une urgence par la négligence des médecins. Il se plaignait de l'estomac. Nous sommes partis à l'hôpital à 2h du matin. Ils nous ont négligés, ils nous ont mis dans une salle et au bout d'une heure, mon père est décédé. Il faut qu'il considère au moins les malades qui viennent. J'ai même assisté à une scène où ils ont chassé des malades, les ont mis dans une salle pour recevoir la femme d'un haut fonctionnaire. Donc, docteur Massamba Diop, je peux vous en lire plein de messages comme ça. C'est déplorable pour votre image de médecin, en fait.
C'est clair. Je ne peux pas dire autre chose. C'est évident et c'est totalement scandaleux. Ce qu'il y a, par contre, qu'on a fréquemment en Afrique, moi je vois ce qui se passe à l'hôpital, le Dantec, quoi, l'hôpital principal, par exemple, à Dakar, c'est que assez souvent, l'hôpital est constamment en état quasiment de catastrophe. C'est-à-dire qu'il y a tout le temps un tel afflux de patients graves, parce que les patients en Afrique viennent dans des états beaucoup plus graves aux urgences, parce qu'ils viennent sur des pathologies très évoluées. Et donc, après, vous faites quasiment un tri entre deux extrêmes urgences, tellement il y en a. Maintenant, si le tri se fait parce que c'est un haut fonctionnaire ou
c'est
autre chose.
Mais avec un problème, oui, docteur Kierzek.
Je peux être catastrophiste, mais en France, on est à peu près sur un système similaire. En tout cas, ça fait 20 ans qu'on dit qu'il y a un problème aux urgences, qu'il y a de l'attente, que les patients... Alors, les patients ont bon dos, on dit souvent ils viennent pour rien aux urgences, sauf qu'on sait très bien qu'une urgence relative ou une urgence grave, le patient, il a mal à la tête ou il a mal au mollet. Il sait pas si c'est simplement une migraine ou si c'est une méningite. Il sait pas si c'est un claquage musculaire dans la jambe ou si c'est une phlébite. Donc, d'où l'intérêt de dire aux gens consultez plutôt que d'attendre à la maison ou d'attendre avant de consulter et d'aggraver la pathologie. Et ça fait 20 ans en France qu'on dit ça ne va pas et ça fait 20 ans que la situation non seulement ne s'améliore pas,
mais
se dégrade. Elle se dégrade parce qu'il y a de plus en plus des retards diagnostiques liés à la fermeture de structures avec des médecins généralistes généralistes aussi qui font ce qu'ils peuvent, mais qui sont débordés dans les cabinets. On a un problème de démographie médicale, surtout dans certaines régions aussi. Donc je dis souvent qu'on a un système qui se paupérise quand même. Et quand j'entends les témoignages, on pourrait reprendre les mêmes témoignages, peut-être un peu minimisés, mais en tout cas en France, les plaintes des patients, c'est autour de ces mêmes problèmes d'accès aux soins, d'attente, de mauvaise prise en charge. Alors bien sûr, on parle que des trains qui arrivent en retard et pas des trains qui arrivent à l'heure. Mais encore une fois, pour les malades les plus graves, on est bien pris en charge en France. Mais le problème, c'est le reste.
Et sur cette question d'engorgement des urgences, est-ce que c'est pas aussi dû finalement à une certaine difficulté d'accès aux soins? Et quand je dis ça, d'accès aux soins, vous l'avez évoqué, de secteur 1, c'est-à-dire prise en charge intégralement par la Sécurité sociale, on a du mal à trouver un pédiatre de secteur 1 en région parisienne, par exemple, tout simplement. Donc le plus simple pour les parents, c'est d'aller aux urgences.
Oui, il y a une partie des patients.
C'est un raccourci, je fais, ou?
Non, il y a une partie des patients qui pourraient être vus en médecine générale ou en médecine de premier recours, comme on dit, mais c'est pas tellement un problème financier. Vous savez, l'essentiel des médecins généralistes, ils sont au secteur 1. Donc c'est pas un problème d'accès financier. C'est un problème de démographie médicale. C'est un problème de confrères en libéral, donc en médecine privée, qui ont déjà des horaires à rallonge et qui, à partir de 21h, ils viennent de faire 8h, 21h. Bah, c'est légitime qu'ils aient du repos. Les gardes ne sont plus obligatoires. Donc il faut des structures qui soient des structures qui accueillent 24h/24. Et c'est là où on pourrait travailler, c'est ce qu'on a proposé nous à l'Hôtel Dieu, de travailler avec des médecins libéraux et que les gens viennent avec un symptôme, ils soient triés par une infirmière d'accueil et d'orientation et qu'il y ait deux filières, une filière grave et une filière non grave, et qu'à tout moment, et c'est ça qui est fondamental, vous puissiez passer d'une filière grave à pas grave et vice versa, parce que bah, le tri il est pas infaillible, qu'un mal de tête ça peut être grave et ça peut évoluer, etc. Et donc c'est ce travail main dans la main urgentiste et médecin généraliste par exemple qui permettrait d'avoir un système efficace et efficient. Mais c'est sûrement pas en faisant des plateformes à 300, 400, voire 500 malades qui vont résoudre la situation sanitaire en France.
Juste une question, docteur Massamba-Diop. On a démarré l'émission en parlant de votre garde. Donc, vous étiez tous les deux de garde cette nuit. Moi, je vous admire quand même d'être là et d'être capable de parler, de pas bafouiller, d'avoir les idées à peu près claires. Moi, c'est moins le cas si j'ai fait une nuit blanche. Vous avez parlé des différents cas que vous avez reçus, entre autres un infarctus. Vous avez expliqué un petit bobo sur le front pour un enfant. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre?
Alors, un accident de la route très grave, avec justement une personne qui avait aussi bien une lésion abdominale et neurologique. Et c'est très particulier parce que nous, maintenant, on va jusqu'à faire l'échographie sur le lieu même de l'accident pour voir finalement qu'il y avait effectivement du sang dans l'abdomen. Et en même temps, le problème neurologique fait qu'en fait, on a par exemple des objectifs tensionnels différents. Pour l'abdomen, ou quand il y a un saignement, on peut se permettre, ça c'est les nouvelles pratiques, d'avoir une tension basse qu'on maintient, mais que quand c'est le cerveau, il faut monter en niveau tensionnel. Et du coup, on va utiliser encore cet appareil d'écho pour faire un Doppler transcrânien pour voir la circulation au niveau cérébral. Et vous voyez qu'en fait, on se retrouve avec une spécialité qui est extrêmement précise et on guide comme ça notre réanimation. Et pareil sur l'accident vasculaire cérébral, où maintenant il y a ces filières, où maintenant dès que c'est le temps qui compte, et à ce moment-là effectivement, on va les thromboliser un petit peu de la même façon, où on aura des urgences neurovasculaires qui vont aller agir
et
directement.
Et on progresse là-dedans. Pour terminer, je suis désolée, je sens bien que vous aviez encore plein de choses à raconter, mais on va parler du développement de la tuberculose multirésistante. Professeur Elisabeth Bouvet, bonjour.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous en direct dans Priorité Santé. Vous travaillez dans le service des maladies infectieuses de l'hôpital Bichat à Paris. Cette tuberculose multirésistante est en fait une tuberculose qui résiste au traitement de base. Quelle est la fréquence de ce problème?
La fréquence en France reste assez limitée, assez peu importante.
Mais dans le monde?
Dans le monde, c'est un problème très important.
Alors, Elisabeth Bouvet, la ligne téléphonique est très mauvaise. On a vraiment des problèmes, même en France. Parlez vraiment bien près du téléphone.
Oui, comme ça.
Oh là, on a beaucoup de mal à vous entendre. Un vrai problème de ligne téléphonique.
Allô?
Oui, allez-y, continuez. Donc, on en était sur la fréquence au niveau mondial.
Au niveau mondial, eh bien, actuellement, la tuberculose multirésistante.
Bon, je suis désolée, je suis vraiment désolée, professeur Elisabeth Bouvet, je ne peux pas vous laisser continuer, on n'entend absolument pas, c'est absolument inaudible. Je suis désolée, on va essayer de vous rappeler, mais comme on arrive à la fin de l'émission, je pense que du coup, on va plutôt déplacer cette interview un autre jour de la semaine, parce que c'est important qu'on parle de cette question des tuberculoses multirésistantes. Vous vouliez réagir, docteur Kerzek, à ce que venait de dire le docteur Massamba-Diop sur les urgences.
Sur la richesse des urgences et sur le fait de passer de l'urgence grave grave, l'accident de voiture, le Doppler transcrânien, tous les moyens techniques qui doivent être mis en branle très rapidement. Mais c'est aussi, et ma garde, c'était une infection urinaire, c'était une fausse couche spontanée. Donc c'est des choses qui sont moins graves, qui font partie de la vie. Et c'est ce métier de l'urgentiste.
Oui, mais enfin, une infection urinaire, ça fait horriblement mal. Donc il faut consulter.
Un, ça
rapidement.
Fait mal. Et deux, si on ne consulte pas et si on ne met pas des antibiotiques très rapidement, ça peut évoluer d'une infection qui est une simple infection urinaire basse, hein, la cystite, où ça fait juste, ça brûle quand on fait pipi, à une infection, ça remonte jusqu'au rein, une pyélonéphrite, un choc septique, etc.
Et une fausse couche, ça peut, il peut y avoir une hémorragie.
Il peut y avoir une hémorragie.
Même une angine.
D'où la, bien sûr. Donc, d'où l'intérêt d'avoir ces services d'urgence capables de faire le pire et le meilleur, d'avoir des professionnels qui sont formés, médicaux, paramédicaux, capables de gérer ça rapidement. Et c'est pour ça que le fait de culpabiliser les gens en leur disant ne venez pas pour rien aux urgences, ou alors évidemment, il y a des problèmes, il y a des patients qui abusent en disant,
mais c'est pas la majorité, c'est ça qu'il faut dire.
Non, c'est pas la majorité, c'est moins de 10% des patients qui pourraient être vus dans un autre type de structure. Les autres sont des patients angoissés, qui ont mal, qui légitimement ont une urgence ressentie. Et c'est à nous, professionnels, de dire cette urgence, elle était uniquement ressentie ou alors elle était vraiment justifiée. Mais ça, c'est uniquement a posteriori qu'on peut le dire et pas a priori. Parce que si on le dit avant, on va avoir des problèmes et on va avoir des pertes de chance pour les patients.
On était en train de parler, Dr Vincent Badiop, des AVC. Vous nous parliez de l'amélioration de la prise en charge en France. Par exemple, ce que vous nous avez expliqué, ça peut aussi se faire sur le continent africain.
Et justement, juste en venant sur Paris, on discutait avec le professeur, le chef de service de neurologie et un de ses assistants qui a fait ça en France. Et là, on est en train de mettre en place une filière accident vasculaire cérébral pour pouvoir répondre. Nous, il se trouve que la moitié de nos accidents vasculaires cérébraux sont vus dans les deux premières heures. Ça veut dire qu'en fait, on peut les déboucher aujourd'hui avec... Non pas systématiquement, hein, mais on peut essayer de les déboucher avec certains produits quand ce sont des AVC, donc ischémiques, lorsque c'est bouché, et non pas hémorragique. Et justement, on est en train de travailler sur une filière qui va permettre de prendre en charge au Sénégal, avec le service de neurologie, immédiatement, avec l'IRM immédiate qui va poser l'indication ensuite de cette thrombolyse avec les neurologues. Donc vous voyez, même là, alors que c'est vraiment de la médecine aujourd'hui de pointe, même là aujourd'hui, au Sénégal, on arrive à pouvoir développer des choses comme ça.
Et les AVC très fréquents sur le
malheureusement,
continent africain.
Malheureusement, du fait de l'hypertension, entre autres, et des autres facteurs de risque, on a un nombre d'AVC désespérément là. Il y en a un qui, juste là, quand je suis venu à Dakar, on m'appelait pour quelqu'un qui était à 20 minutes de son accident vasculaire cérébral. Et surtout beaucoup plus jeune que dans d'autres pays, comme par exemple la France.
Est vraiment dû à l'hypertension. Voilà. Merci beaucoup, hein, tous les deux, d'être venus. Bon congrès qui démarre demain. Demain, oui, vous vouliez rajouter quelque chose, Vincent Badiop, mais il vous reste 3 secondes.
Oui. Non, mais je voulais juste dire qu'effectivement, on peut arriver à faire des choses
de qualité, même sur le continent africain.
On a médicalisé Obama lorsqu'il est venu.
Voilà, donc, c'est important de le dire, absolument. Oui, absolument, vous avez raison. Et demain, nous, on parlera des addictions, alcool, cannabis, drogue. On se retrouve demain.